Parce que quand j'ai eu justement ce choc-là, oui, il y a le choc de savoir qu'on a une tumeur, mais c'est plutôt les traitements qui viennent avec, tu sais, qui font vraiment peur. Puis les traitements, dans mon cas, c'était de la chimiothérapie. Bien sûr, l'opération, la chimiothérapie, la radiothérapie. Puis moi, je voulais pas perdre mes cheveux parce que, en fait, il y a aucune femme qui veut perdre ses cheveux, aucun homme veut perdre ses cheveux. Mais dans mon cas, c'était hyper important. Je voulais pas que mes enfants me regardent avec un air de maman est malade parce que moi, dans mon corps, je sentais que j'allais bien, en fait.
Sophie Reyes, vous êtes la cofondatrice de La Ruche Montréal et La Ruche est un organisme de financement participatif qui a aidé des entreprises à récolter plus de 23 millions de dollars au Québec depuis son lancement. Parallèlement à votre rôle de directrice exécutive innovation à La Ruche, vous êtes également impliquée dans plusieurs projets distincts comme le site de référence pour parents voyageurs Bébé Jetlag, que vous avez créé après avoir visité plus de 46 pays et le média Un cancer en cadeau, un autre site Internet que vous avez lancé afin d'éclairer et outiller les gens atteints d'un cancer. Sophie Reyes, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci, je suis contente d'être là.
Et Sophie, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de thèmes que je vais avoir envie de discuter avec toi aujourd'hui. Mais sachant qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast Hypercroissance aujourd'hui, peux-tu partager avec notre audience qu'est-ce que La Ruche précisément et comment donnez-vous un coup de main aux entreprises émergentes?
Alors, La Ruche, c'est une plateforme de financement participatif 100% québécoise, une plateforme de financement participatif de proximité. On est un OBNL et ce pourquoi on se lève tous chaque matin, c'est vraiment pour favoriser l'émergence de nouveaux projets au Québec. Donc, on est présent dans 10 régions, maintenant 10 régions à travers le Québec et on a vraiment l'intention d'ici 2023 d'être vraiment physiquement présente à travers le Québec. Donc, nous, on accompagne les entrepreneurs d'ici qui ont l'intention de lancer une campagne de financement participatif. Mais compte tenu du fait qu'on est aussi présent partout, ben, on a un ancrage régional et on favorise justement ces maillages-là avec les organisations de développement économique local. Puis aussi, en parallèle, on a des fonds qui viennent apparier finalement le montant recueilli par les entrepreneurs dans le cadre de leur campagne de financement participatif.
Puis c'est intéressant ce que tu dis aujourd'hui, puis également j'aimerais t'entendre là-dessus. Le financement participatif, bien entendu, ça a pris beaucoup plus d'ampleur dans les dernières années, c'est davantage démocratisé, mais tout de même, est-ce que vous rencontrez encore des entreprises aujourd'hui qui vous posent la question comment qu'on lève des fonds avec du financement participatif? Parce que c'est pas tellement quelque chose qui est là depuis longtemps, là.
Non, en fait, La Ruche est née en 2013. On a commencé à voir émerger là, à la fin, là, donc 2008, 2009, 2010, là, les premières campagnes de financement participatif. Nous, quand j'ai implanté La Ruche à Montréal en 2016, c'était vraiment, vraiment hyper nouveau. Là. Il y avait même, ça faisait même un peu mauvaise presse parce qu'on associait financement participatif à socio-financement, à « j'ai été à Cuba, j'ai pas pris d'assurance, oh mon Dieu, je suis malade, hospitalisée, je fais des campagnes sur GoFundMe ». Mais l'association, vraiment dans le cerveau des entrepreneurs, de se dire « j'ai une campagne, en fait, j'ai un projet à financer, je songe à faire une campagne de financement participatif », c'était vraiment pas dans notre culture, c'était pas du tout quelque chose qui était ancré. Puis il y avait plein de paradigmes aussi, puis de choses, de mythes à briser autour de ça. Mais reste que faire une campagne de financement participatif maintenant, en 2022, ça rentre presque dans le flot d'une commercialisation qui est attendu, ça rentre dans le mix média, c'est beaucoup plus démocratique.
Ouais, définitivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Puis on va en parler un petit peu plus tard parce qu'on a eu des invités dans le passé qui ont eu beaucoup de succès avec cette approche. Mais Sophie, j'aimerais peut-être revenir un peu au début de ta carrière. Donc, si on fait des recherches sur toi, on peut rapidement s'apercevoir que t'es une bourreau de travail. Je pense que c'est un terme qui est legit, on va dire, à utiliser ici. Déjà, l'âge de 23 ans, tu te retrouvais avec un poste haut placé chez Rogers avant d'obtenir un rôle de direction vers l'âge de 25 ans seulement chez Vidéotron ensuite. Peux-tu nous ramener un petit peu sur au début de ta carrière professionnelle et partager un petit peu à nos auditeurs comment t'es passé de haut poste dans des entreprises privées à ultimement être en charge de La Ruche?
Et ça, c'est une belle histoire. Donc, il était une fois Sophie. Moi, ma carrière a été vraiment motivé par une passion. Puis tu l'as dit dans l'introduction, dans le fond, cette passion, ce rêve de voyage-là qui m'a mené à visiter, à l'époque, j'ai lancé le livre, j'avais visité 46 pays, maintenant, j'y compte plus. Ben, elle m'a motivé depuis ma tendre enfance. Et moi, mes deux parents sont immigrants de première génération, ils sont arrivés ici. Donc, j'avais pas nécessairement la chance que moi, mes enfants ont de voyager avec mes parents. C'est sûr qu'on allait au Portugal voir la famille. Comme tous les bons Québécois, on allait à Old Orchard l'été. Et ben, c'est un peu ça. Et moi, j'avais envie de parcourir le monde. T'sais, un des plus beaux cadeaux, d'ailleurs, que mes parents m'ont fait, c'est une immense map monde que j'avais dans mon sous-sol. T'sais. Et je me suis dit que si je voulais atteindre ces rêves-là, donc ces rêves-là de voyage, il fallait que je commence à travailler tôt. Il fallait que je commence à travailler très fort pour atteindre justement ces rêves de voyage-là. Et après ça, ben, c'est comme ça où j'ai commencé à travailler très jeune, donc à 15 ans, à 16 ans, j'ai commencé à travailler dans une boutique. À 17 ans, le gérant de la boutique est parti du jour au lendemain. J'ai eu à charge comme gérante de cette boutique-là. Je pouvais pas aller à l'SAQ me prendre une bouteille de vin, mais je gérais la boutique de millions de dollars. Et ce qui m'a permis de toucher à toutes sortes de domaines rapidement et qui m'ont amené dans cette vague du marketing qui était à l'époque, la promotion, qui était cette innovation-là, qui était nouveau, on parle au niveau des années 2000, c'était vraiment tout ce qui était peer-to-peer, campagne d'échantillonnage à l'époque et tout ça. Donc, moi, je suis vraiment rentrée dans cette vague-là de promotion et ce qui m'a permis justement de faire mon cégep, mon université, toujours en communication et tout ça, mais de travailler quand même dans mon domaine, quand même assez jeune. J'ai étudié en relations publiques à l'université puis je travaillais en relations publiques en même temps. J'ai lancé mon entreprise Sophie-Rès Relations publiques à 19 ans. Donc, c'était quand même assez jeune pour partir son entreprise. Donc, déjà, j'avais une espèce de désir entrepreneurial là, qui était assez fort, mais je me dis, je vais aller chercher mon expérience en agence plus traditionnelle. Donc, j'ai commencé à travailler en agence de pub, autant au niveau, à l'époque, une agence qui s'appelait P2P, donc qui était très dans le vent là, pour tout ce qui était justement out of the box, là, tout ce qui sortait un petit peu de l'ordinaire au niveau du mix média. Donc, je travaillais à là-bas. J'avais toujours 2-3 jobs de promo on the side. J'avais mon entreprise en relations publiques que je roulais. Après ça, j'ai fait mes classes en publicité traditionnelle chez Marketel avant d'avoir justement le moment où Rogers m'a mis le grappin dessus pour m'occuper finalement de tout ce qui était commandite événementiel chez Rogers. Et après ça, ben justement, Vidéotron cherchait quelqu'un pour lancer Vidéotron Mobile à l'époque, puis créer le département de commandite qui n'existait pas à l'époque. Donc, on parle de 2008. Et c'est là que Sophie s'y présente, a levé la main, puis a dit « Mais, ça serait le fun d'aller là. » Donc, c'est vraiment cette espèce de motivation-là, de passion, finalement, à la base pour financer mes voyages, mais qui m'a servi à travailler vraiment super jeune, avec vraiment beaucoup de passion, et mais qui m'a fait, justement, prendre une expérience professionnelle assez hallucinante dans un domaine qui était hyper émergent, parce qu'à l'époque, c'était un peu comme les réseaux sociaux un peu plus tard, tu sais, voilà. Et j'ai eu la chance aussi, dans ce parcours-là, d'avoir des clients qui étaient majoritairement dans le domaine de l'innovation et de la technologie. Donc, c'est pour ça aussi que le flow m'a mené à travailler en télécommunication plus tard.
Puis, j'ai été capable récemment de parler avec certaines personnes qui écoutent le podcast et je me suis rendu compte un petit peu à ma surprise que oui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous écoutent, mais il y a également des gens dans des organisations qui essayent de faire leur place. Et pour faire ta place, toi, ça s'est assez bien déroulé. Donc, on peut voir que dès, je pense, les premiers mois que tu étais chez des Vidéotron, tu as gagné un prix, le prix différenciation, si je me trompe pas. Tu as fait tes classes toute seule et ultimement, on t'a donné des promotions et tu as eu des rôles de plus en plus d'importance à l'intérieur d'une organisation d'envergure comme celle de Vidéotron. Un petit peu de contexte, Sophie, et ma question à toi est la suivante. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans des nouvelles organisations, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour qu'ils se fassent une place plus facilement et qu'ultimement, ils puissent monter les échelons dans l'entreprise?
Ben, j'adore ta question parce que la réponse est super simple. À mon sens, c'est juste de rester eux-mêmes. Et moi, c'est exactement ça qui a fait ma marque et j'en suis super fière parce que j'ose espérer que si on questionne quelqu'un avec qui j'ai travaillé quand j'avais 15 ans, au même titre que la personne avec qui j'ai travaillé dans toutes les dernières entreprises que j'ai fait, ben, j'espère qu'ils ont toujours cette image-là de quelqu'un qui est authentique. Je pense que c'est ma force. Quand je suis rentrée justement chez Vidéotron, Sinon, anecdote, j'avais un ordinateur qui était vide. J'avais un crayon, un post-it qui était marqué dessus « Bonne chance ». Et c'est tout ce que j'avais. Le répertoire était vide. J'avais, en fait, c'est pas vrai. J'avais deux contrats qui étaient signés. C'est tout, mais aucunement opérationnalisé. J'avais pas d'équipe. J'avais absolument rien. Mais j'avais cette espèce de désir, dans le fond, de faire les choses différemment. Donc, à ma manière, souvent, ce qui arrivait dans mon bureau et ce qui arrive toujours dans mon bureau, c'est ce qui rentre pas dans les opérations courantes, dans le fond, tombait dans le fond, dans mon bureau, puis je trouvais le moyen de rassembler les meilleures personnes autour de la table pour arriver à mes fins, à nos fins. Et comment j'arrivais? Ben, c'est avec ce leadership-là, à mon sens, là, je mets des mots là-dessus, mais à l'époque, je ne connaissais pas ça, mais le leadership conscient, donc un leadership qui était très positif et un leadership qui était très authentique. Donc, mon plus gros conseil à quelqu'un qui veut faire sa marque, oui, c'est de travailler fort, mais c'est de bien travailler avant tout et bien travailler ben, de façon consciente, consciente des autres, consciente de soi-même, conscience de ses limites. Ça, je l'ai appris avec le temps un petit peu parce que justement, à cette époque-là, il y avait tellement de travail justement à faire, tout à bâtir que j'ai vraiment pas pris soin de ma santé. Je veux dire, je ferais plus ça maintenant, là. Mais à l'époque, je travaillais vraiment, tu sais, on avait aussi cette espèce de mindset de gratification, de plus tu fais d'heures, plus t'es cool. On s'entend qu'on est heureux que la société ait évolué et je suis absolument pas de cette école-là. Je suis la première à la ruche présentement à dire aux gens « Hey, il fait beau, allez skier dehors un mardi après-midi s'il y a une tempête de neige. » On s'entend que ma vision du travail a vraiment éclaté, mais à l'époque, je travaillais énormément. Puis, comme on dit en chinois, je « get the shit done ». C'était vraiment ça. Oui.
Puis, ce qui est également intéressant dans ton parcours, c'est que bon, à travers le temps, bon, les années ont passé et t'es devenue mère de famille, un petit garçon, une petite fille. Et contrairement à la croyance populaire, ça t'a pas empêché de continuer à faire des occupations que peut-être une jeune dame ou un jeune homme au début de sa vingtaine pourrait faire, c'est-à-dire voyager un peu partout dans le monde. Tu comptes à ce jour, maintenant j'imagine peut-être plus que 46 voyages, mais c'était le nombre à l'époque. Et ces voyages-là, en tant que mère de famille, t'a amené à lancer Bébé Jetlag et t'a également amené à lancer un livre qui est devenu best-seller. Félicitations
quand
d'ailleurs.
Quand même, je suis vraiment contente.
C'est assez impressionnant. Donc, le livre, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui seraient intéressés à en savoir plus, s'appelle « Le guide des parents voyageurs ». Et la question qui, à mon avis, est sur les lèvres de tous nos auditeurs, Sophie, comment concilier vie de famille, vie professionnelle et voyage du même coup?
C'est difficile. Sérieusement, c'est difficile. Puis, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a absolument pas de recette miracle. Je peux répondre à deux niveaux. La vie professionnelle et la vie de famille, c'est super difficile ces temps-ci. Je pense que personne ne s'en sauve. La routine est chaotique. Je pense qu'il faut se donner de la flexibilité. Il faut être en mesure de travailler en équipe aussi avec son conjoint pour ceux qui ont la chance d'avoir un conjoint aussi. Il faut se garder des temps pour nous. Mais c'est vraiment, moi, ma planche de salut, c'est vraiment mon organisation. T'sais. Puis mon organisation, c'est clair que moi, si tu me demandes qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, ben, à telle heure, ben, je sais généralement ce que je vais faire. Je planifie quand même très bien. Fait que moi, c'est vraiment la planification qui m'a vraiment sauvée. C'est sûr qu'on a la chance de notre côté aussi d'avoir une famille élargie qui est très présente, mes parents, mes beaux-parents. Donc, on a vraiment un cercle de soutien qui est assez large, qui n'est pas donné nécessairement à tous. Mais pour répondre à ta question, c'est ce qui m'a permis aussi d'écrire justement ce livre-là. Mais on ne va pas se le cacher qui, encore là, moi, je me souviens, j'ai des souvenirs quand j'écrivais le livre en 2018 où je me couchais vers 10h, 11h, là, en même temps que tout le monde, et en cachette, je mettais le réveil, puis je me réveillais à 3h du matin, puis j'écrivais le livre jusqu'à 6h, puis là, les enfants se réveillaient, puis la routine continuait, tu sais, ou des fois, je faisais semblant de m'endormir, après ça, pour pas que mon conjoint soit fâché, puis après ça, j'allais écrire en cachette, je me couchais aussi à 3h du matin, où je me réveillais, fait que, tu sais, c'est vraiment pas évident, mais j'ai cette capacité-là d'organisation qui est quand même super forte. Puis justement, je voulais en faire bénéficier de cette capacité-là d'organisation et c'est comme ça que le livre est venu au monde parce que justement, en voyageant avec mes enfants, parce parce que, en fond, moi, à la base, quand je suis tombée enceinte en 2012, tout le monde me regardait avec un air vraiment pétrifié en me disant « Oh my God, ta vie est finie, tu ne pourras plus voyager. » Tu sais, une chance que tu as été à tel endroit parce que tu ne pourras plus jamais y aller. Tu sais. Puis tu sais, on a parlé du nombre de pays, mais il y en a que j'ai fait plus, tu sais, à plein de reprises aussi. Puis tout ça, là, tu sais. Fait que moi, je voyageais énormément. Là, tu sais. Chaque journée de congé, je le passais à l'extérieur du pays presque. Là, tu sais. C'est vraiment... Ben, c'est toujours une passion qui est extraordinaire. C'est sûr que là, maintenant, avec la pandémie, on est un petit peu plus limité. Maintenant, je visite le Québec de fond en comble, mais je me suis rendu compte qu'avec des enfants, cette organisation-là devenait encore plus essentielle pour être en mesure de pouvoir justement avoir du plaisir autant en vol à destination, puis même au retour, parce qu'il y a quand même une adaptation au retour. Donc, et je me suis mis encore avec ma passion légendaire, à faire un doctorat en voyage et enfants. Donc, je me suis mis à lire tout ce qu'il n'y avait pas sur la planète, dans toutes les langues possibles et imaginables, sur justement des conseils pour faciliter la vie des parents voyageurs. Donc, j'ai commencé cette recherche-là pour mes propres besoins. Puis après ça, ben, je me suis tellement demandé de conseils que je me dis, ben, je vais faire un site pour éviter que de répéter. Et ben, par la suite, le besoin de créer ce livre-là est arrivé et Québécois m'ont approché justement pour éditer ce livre-là. Et c'est comme ça que le livre est né en 2018.
Mmh. Puis, c'est intéressant tout ça parce que le livre est sorti en 2018, mais toi, tu as quitté ton emploi chez Québécois, chez Vidéotron, oui, en 2016 pour joindre La Ruche.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est déroulé à ce moment-là? Tu sentais peut-être que tu avais fait le tour et que tu avais besoin de nouveaux défis?
Bien, c'est pas mal ça. En fait, en 2016, ça concorde avec mon deuxième congé de maternité. Et dans mon cas, mes congés de maternité ont été vraiment des moments de gratitude et de réflexion extraordinaires. Pourquoi? Parce que tout au long de ma vie, j'avais jamais pris de temps de pause. Et ben, c'est quand même un moment privilégié. Donc, en 2012, j'avais l'impression que c'était clairement ma carrière chez Vidéotron était vraiment pas finie. Au contraire, tu sais, j'avais encore plein de choses à faire. On allait lancer le mobile à mon retour. J'avais hâte de revenir à mon congé de maternité. Puis, lors de mon deuxième congé de maternité, dans le fond, en 2016, ben là, je me suis mis à me poser énormément de questions aussi sur qu'est-ce que je voulais vraiment dans la vie. T'sais, c'était vraiment, j'avais déjà un 15 ans de pratique derrière moi. Donc, 15 ans, c'est assez considérable. Puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire justement avec toutes ces aptitudes-là, ces compétences-là? Est-ce qu'elles peuvent être transférables aussi à un autre domaine qui n'est pas nécessairement de la communication et encore moins de la communication en technologie? Donc là, je me suis mis justement à faire bien de la démarche personnelle et me rendre compte qu'il y a deux choses que j'aimais plus que tout dans la vie, mais il y avait un tronc commun, c'était de permettre aux gens de réaliser leurs rêves. C'est beau, en fait, de dire ça, hein? mais c'est vraiment ça, c'est beau, mais c'est vrai, j'aimais permettre aux gens de réaliser leurs rêves et c'est pour ça d'ailleurs que la discipline des commandites m'a, ou des alliances stratégiques, on peut l'appeler comme on veut, m'avait attiré au départ parce que justement, par l'entremise des commandites, par l'entremise, dans le fond, des alliances, on permettait à l'organisateur du festival, disons, de réaliser son rêve d'ampleur, de pouvoir voir son festival voir le jour, permettre aussi aux usagers du festival, aux visiteurs de pouvoir augmenter leur expérience, donc d'avoir beaucoup plus de plaisir sur place. Tu sais, il y avait vraiment quelque chose qui pour moi m'attirait dans se donner accès à quelque chose, puis de permettre à, donc ça ici, c'était vraiment, c'est ça, donc permettre aux gens de réaliser leurs rêves entrepreneuriaux, dans le fond, était la suite un peu de ça. Et parce que permettre aux gens de réaliser leur rêve de voyage en 2016, justement, c'est pour ça que j'ai créé Bébé Jetlag, parce que justement, je m'en allais vers ça. Et il restait justement à combler ce côté-là. Et je l'envoyais dans l'univers. Et ça donnait justement que Jean-Sébastien, qui lui a fondé La Ruche à Québec en 2013, se cherchait quelqu'un pour assurer la croissance de La Ruche à l'extérieur de la ville de Québec. Donc, Montréal, puis après ça, les autres régions. Et c'est comme ça qu'il m'a approché puis qu'on a commencé cette belle aventure.
Et parlons-en de La Ruche un peu parce que je suis fasciné par ce financement participatif-là. Et d'ailleurs, on a reçu deux fois sur le podcast, Sophie, un ami à moi qui s'appelle Julien Brault, fondateur de l'application Art Bacon. Et Julien, il a été capable, depuis ses débuts, de lever plus de 2 millions de dollars en financement participatif. Un chiffre qui m'impressionne et que même à ce jour, j'ai de la misère à expliquer comment il a été capable de faire ça. Par contre, le bémol, il me disait, c'est la complexité par la suite à retourner un financement qui est davantage considéré comme traditionnel. On pourrait dire ici que aller voir des anges investisseurs pour lever des rondes de financement après avoir fait des rondes via du financement participatif peut sembler complexe. Donc, j'amène ça à ton attention pour savoir, au final, là, le financement participatif, à qui ça s'adresse davantage et qu'est-ce qu'on doit prévoir en tant qu'entrepreneur avant de se lancer avec cette avenue de financement?
Bien, c'est une bonne question, mais juste avant d'y répondre, je veux juste clarifier. Julien, là, lui, ce qu'il a fait, c'est une campagne de financement participatif en capital, dans le fond. Donc, la campagne de financement participatif en capital, l'objectif, c'est vraiment de soutenir l'entreprise, soit à voir le jour ou à croître. Nous, à La Ruche, c'est pas le même type de financement participatif. Donc, nous, on vise à financer des projets qui sont circonscrits. Donc, c'est pas nécessairement pour financer les opérations d'une entreprise, c'est pas non plus gérer, c'est pas la même chose. Le principe, quand même, reste le même. Donc, on demande à la population, donc à différents contributeurs, par l'entremise d'un montant qui peut être plus petit, de contribuer à un projet. Dans le cas de Julien, justement, c'est la croissance de son entreprise. Dans le fond, de La Ruche, c'est beaucoup plus des projets qui sont circonscrits. Donc, nous, de l'ordre, exemple, des projets, nous, à La Ruche, en moyenne, c'est 35 000 $, tu sais. Ben, en fait, entre 25 puis 35, tout dépendant si on a du financement additionnel ou pas. Donc, on est vraiment dans un registre qui est beaucoup plus petit. Donc, nous, cette espèce de notion de bloquer ou peut-être une réticence à aller chercher du financement plus conventionnel, c'est pas quelque chose que les promoteurs sur La Ruche nécessairement vivent parce qu'on est dans une étape un petit peu plus précoce. On est dans du financement, dans le fond, de 0 à 100 000, généralement beaucoup plus en démarrage. C'est des entrepreneurs de tout type. Donc, on soutient aussi l'économie sociale, mais c'est vraiment tout type d'entrepreneurs. Et les prérequis pour faire campagne à La Ruche, dans le fond, c'est, je le répète, avoir un projet circonscrit qui veut dire j'ai besoin de combien d'argent et pour quand, dans le fond, et pourquoi. Donc, c'est vraiment très circonscrit. Et en échange, finalement, c'est pas de l'investissement. Donc, le promoteur, dans le fond, ne va pas investir. C'est pas non plus des obligations communautaires. C'est pas non. Donc, il n'investit pas. Donc, il n'a pas, finalement, un intérêt financier à investir sur La Ruche, mais ou plutôt, ils achètent une contrepartie. Donc, c'est vraiment exactement. Donc, c'est une transaction qui est commerciale en retour. Donc, un facteur clé de succès, c'est vraiment d'avoir le potentiel, un projet avec un potentiel à pouvoir vendre des contreparties qui sont attrayantes, intéressantes, dans le fond. C'est sûr qu'il y a toujours l'option de faire une contrepartie, de donner finalement un achat sans contrepartie, là, donc l'équivalent d'un don, mais c'est quand même assez minime sur La Ruche. C'est vraiment, les gens viennent là pour faire des transactions, là, pour faire ça.
Donc, il n'y a pas de capital d'action qui est échangé. C'est vraiment, on achète le produit et c'est de la prévente littéralement. Et ultimement, le produit va venir. Donc, effectivement, c'est une bonne nuance à amener à l'audience. Et ça, bien entendu, si ça n'impacte pas ton capital d'action, tu peux retourner et voir des investisseurs un petit peu plus traditionnels dans le futur. Donc, ça, je pense que c'est une belle nuance que tu amènes.
Bien, c'est une belle nuance. Puis, c'est pour ça aussi, excuse-moi, qu'il y a beaucoup, je pense à Desjardins qui soutient La Ruche aussi, tu sais. Donc, nous, on est vraiment en complément à l'écosystème de financement traditionnel, là.
Je comprends très, très bien. Sophie, j'aimerais parler avec toi d'un événement un petit peu plus sombre, mais que tu as approché de manière tellement exemplaire, exceptionnelle. Donc, je pense que c'est important de le mentionner à l'audience aujourd'hui. En pleine période de pandémie, donc à l'automne 2020, tu as été diagnostiqué d'un cancer du sein. Il y a un excellent article sur ton site web d'ailleurs que tu as lancé, le site web Un cancer en cadeau, qui explique comment tu as appris la nouvelle, comment tu as vécu cette dernière année et également comment tu as tenté de donner un regard différent à un combat contre le cancer. Avant d'en parler plus en détail, parce que je pense que ça vaut la peine d'en discuter dans le podcast aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui, après un petit peu plus qu'un an que tu as eu la triste nouvelle?
14 mois, je me sens super bien. J'ai eu la chance, en fait, je brûlais le punch tout de suite, mais je suis en rémission. En fait, moi, j'aime mieux dire je suis guérie. Donc, je suis guérie jusqu'à preuve du contraire. J'ai eu cette chance-là, en fait, le taux MDM a été confirmé cette semaine. Donc, j'en suis plus qu'heureuse. Le timing est parfait pour qu'on se parle. Mais oui, il y a 14 mois, jour pour jour, de façon complètement fortuite, moi, pour faire la petite histoire, là, c'était au mois d'octobre, en 2020. En fait, pas l'année passée, l'autre d'avant. Au mois d'octobre 2020, j'étais un peu tannée du confinement et j'avais vraiment envie de voir des humains. Et je me suis dit, mais quelle bonne idée de passer à travers ma to-do list puis d'aller vraiment passer à travers tous les rendez-vous qu'on reporte à plus tard. Donc, autant le dentiste, tous les rendez-vous comme ça. Et finalement, ben, je me suis dit, je vais faire un bilan de santé complet. Puis dans le cadre de ce bilan de santé complet, j'ai été voir justement une médecin spécialiste, une gynécologue, qui m'a examiné un examen de routine, puis elle m'a posé une question qui a changé ma vie. Elle m'a posé la question « Comment ça va? » Et moi, j'ai répondu « Ça va bien, ça va super bien, mais j'ai mal au dos parce que je travaille tellement sur mon ordinateur tout croche que je file pas et j'ai mal au dos. » Et là, je tente ma clavicule en même temps que je dis ça, comme ça, tout bonnement, et elle fait « Hey, c'est vrai, je t'ai jamais examiné les seins, tu sais, jamais, alors viens ici. » Et c'est là que, par hasard, elle m'a vraiment fait, parce que je suis jeune, là, j'avais 38 ans, là, tu sais, on s'entend que je suis pas dans les statistiques ni rien, là, puis j'ai pas d'antécédents, j'ai rien, je suis en pleine forme, là. Et là, c'est là qu'elle a passé à l'examen, puis elle dit « Écoute, je trouve absolument rien, tu vas super bien, mais pour le fun, voici une écho, puis voici une mammo, va faire ça quand tu voudras. » Et c'est là où j'ai été faire cette belle... parce que je me suis dit, écoute, on est en pandémie, on a le temps, hein, on va y aller. Et c'est là qu'ils ont trouvé finalement une tumeur ultra agressive cachée dans mon sein opposé à là où est-ce que je disais que j'avais un comme super, ben, que j'avais un inconfort dans le fond qui était clairement musculaire, là, tu sais. Et donc, la vie a fait que ça m'a fait un super beau cadeau, en fait, de savoir que cette proactivité, en fait, m'a pas mal sauvé littéralement la vie. Et quand j'ai eu justement cette nouvelle-là, ben, ça a été bien sûr un choc, mais j'ai comme pas laissé nécessairement la place à ce choc-là très longtemps. Et j'ai comme, c'est niaiseux, hein, mais j'ai pris vraiment ces réflexes que j'avais entrepreneuriaux, puis j'ai comme pris action dans ce sens-là, tu sais, vraiment.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours. Je pense que ça vaut la peine que les gens qui nous écoutent aujourd'hui aient jeté un petit coup d'œil à ton site web que tu as lancé qui s'appelle, et je le répète, un cancer en cadeau. C'est assez exceptionnel tout ce que tu as écrit parce que t'as aidé à outiller des gens, t'as communiqué ce qui se déroulait et t'as fait énormément de recherches. Donc, j'ai lu à peu près tout le blog et ce que j'ai été capable de voir, c'est que t'as rencontré des dizaines d'experts indépendants, t'as utilisé des traitements spéciaux. Je pense que les docteurs t'ont même dit à un certain point que tu posais beaucoup de questions.
Beaucoup trop de questions.
Puis toi, surprise, tu disais, ben voyons donc, les gens posent pas ces types de questions-là habituellement. Ramène-nous un petit peu à cet état d'esprit-là parce que définitivement, on dirait que tu t'es informé, que tu as documenté tout ça. Puis ultimement, ben, je pense que ça t'a aidé à passer au travers de toutes ces étapes, une après l'autre.
Ben vraiment, tu sais, mon premier réflexe quand j'ai eu le diagnostic, là, c'était de m'informer. C'est là où j'ai commencé vraiment cette quête d'information, là, tu sais, où est-ce que je me suis dit que j'allais devenir une spécialiste, mais je dis que j'ai un doctorat honorifique en oncologie, là aussi, là, je le dis à la blague, là, mais c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre toutes ces espèces, cette méthodologie journalistique, là, puis de me plonger, là, dans cette recherche-là. Comme ça, quand j'arrivais dans le cabinet des médecins, parce qu'on s'entend aussi qu'on est en pandémie, je suis tout seul aussi devant, tu sais, je vis tout ça tout seul là aussi, là, tu sais, et que j'arrivais vraiment ultra préparée, j'ai un cartable de 2 pouces d'épais avec toutes les recherches surlignées en fluo avec des post-it et tout ça. Fait que souvent, ils me posaient la question, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, madame, tu sais, parce que justement, j'arrivais tellement préparée. Et dans ces recherches-là, j'ai pas mal réalisé aussi que la façon de faire ici au Québec n'est pas nécessairement la même façon de faire à travers le monde. Et c'est là où est-ce que justement, je trouvais que voyager m'a permis de donner en fait plein d'outils pour pouvoir justement vivre cette épreuve-là, parce que j'avais ce réflexe-là de me dire, mais qu'est-ce qui se fait ailleurs? Tu sais, comment les gens font les choses différemment? Donc, je me suis mis à lire et à me dire, bon, ben chaque fois que je voyais une méthode, un traitement, n'importe quoi qui pouvait se référer à mon cas, ben je me suis donné comme défi de trouver à Montréal, au Québec, puis quand je trouvais pas au Québec, j'allais ailleurs, la meilleure personne pour me conseiller là-dedans, puis de me donner la formation adéquate. Donc, je me suis bâti une équipe de 13 spécialistes de toutes sortes, OK? Donc, là, on parle de nutrition, on parle d'acupuncture, d'ostéopathie, de médecine énergétique. Je les ai toutes faites. Je dis à la blague, mais c'est vrai, je me suis même acheté un trampoline parce que c'est bon pour le système lymphatique. Toutes les méthodes possibles, imaginables, je pense que je les ai toutes essayées, mais ça vient finalement de mon réflexe de curiosité puis d'avoir envie de le faire. Et j'ai même réussi à garder mes cheveux, ce qui, j'avais 100% des chances de les perdre, mes cheveux. Et c'est sûr que vous nous entendez, donc vous entendez un voix et vous ne voyez pas mes cheveux, mais je vous invite à aller voir sur le compte Instagram de Un Cancer en cadeau. Sur le compte Instagram d'Un Cancer en cadeau, je répertorie finalement, c'est mon journal intime en toute transparence et vulnérabilité. C'est 14 mois en images, en illustrations, donc on voit à travers tout ça. Et ben, j'ai connu finalement la technique du casque réfrigérant. Donc, c'est un casque qu'on met sur notre tête à moins 30, moins 35 sur une durée d'à peu près 6 à 8 heures selon les journées de traitement. Donc, c'est extrêmement ça paraît extrêmement violent, mais on s'habitue, là, ça se fait quand même très bien. Et c'est un procédé qui gèle les follicules, donc, et qui empêche, par conséquent, la chimiothérapie à toucher aux follicules. Parce que quand j'ai eu justement ce choc-là, oui, il y a le choc de savoir qu'on a une tumeur, mais c'est plutôt les traitements qui viennent avec, tu sais, qui font vraiment peur. Puis les traitements, dans mon cas, c'était de la chimiothérapie, bien sûr, l'opération, la chimiothérapie, la radiothérapie. Puis moi, je voulais pas perdre mes cheveux parce que en fait, il y a aucune femme qui veut perdre ses cheveux, aucun homme veut perdre ses cheveux. Mais dans mon cas, c'était hyper important. Je voulais pas que mes enfants me regardent avec un air de maman est malade parce que moi, dans mon corps, je sentais que j'allais bien, en fait. Je sentais que j'étais pas malade, tu sais. Fait que je voulais pas projeter une image qui n'était pas ce que je sentais dans le fond de moi. Tu sais, je me suis jamais sentie malade au cours des 14 derniers mois, puis j'ai été super chanceuse parce que j'ai jamais eu d'effets secondaires non plus. Pourquoi? Parce que je ne saurais jamais dire lequel de mes multiples méthodes a fonctionné, mais clairement qu'il y a quelque chose là-dedans qui a marché parce que j'ai passé à travers. Là, j'ai fini mon 25e traitement de chimiothérapie la semaine passée. J'ai passé 33 jours en radio. J'ai comme eu 2 opérations et j'ai jamais eu d'effet secondaire quand même. Et ben c'est ça, j'ai gardé vraiment 100% de mes cheveux, ce qui a quand même pu aussi aider à ma cause. Mais cette espèce de curiosité-là m'a amené à faire justement ces démarches-là pour mes propres besoins. Puis maintenant, j'ai eu envie de transmettre mon savoir à l'époque avec Baby Jetlag, autant maintenant, je sens un désir profond de pouvoir partager justement toutes ces connaissances-là, tout ce que j'ai appris au cours des 14 derniers mois. Et c'est comme ça que j'ai lancé la page d'Un cancer en cadeau, qui a été quand même, on va se le dire, confidentielle pendant 11 mois. Donc, cette histoire-là, je l'ai gardée pour moi pendant un an, presque un an, en fait. Je sentais pas que c'était juste pour moi à cette époque-là d'en parler. Je voulais quand même garder ça pour moi. Je voulais pas nécessairement, en fait, j'en avais déjà assez à gérer que je voulais pas non plus gérer la crainte aussi des gens. C'est quand on annonce qu'on a un diagnostic comme ça, c'est souvent dans les yeux des gens. Je voulais pas avoir ces préjugés-là non plus. Je voulais pas avoir des angoisses qui m'appartenaient pas nécessairement. Je pense qu'avec du recul, c'était une excellente décision. Aussi, j'ai gardé ça confidentiel quand même pour moi durant cette période-là. Ça m'a quand même, j'ai quand même poursuivi mes activités et tout ça, mais sans avoir cette notion-là. Et quand j'ai fait mon coming out au mois d'octobre, ben là, j'ai quand même eu une belle vague d'amour et tout ça, mais c'était pas une vague d'angoisse parce que j'étais déjà pas mal sortie d'affaires, tu sais. Fait que c'était quand même un bon jugement. Donc, un cancer en cadeau est là.
Mais c'est une décision courageuse aussi, dans le sens que,
ouais.
Je veux dire, t'as vécu ça seul? Est-ce que c'est littéralement personne dans ton entourage qui était au courant? Même pas ton conjoint?
Non. Ça, c'est sûr que j'avais quand même... moi, j'ai un vaste réseau. Donc, quand même, ça fait partie de mes forces. Mais je dirais que j'avais peut-être une cinquantaine d'amis proches là, qui étaient au courant.
Okay.
Là, t'sais, ça peut paraître beaucoup, mais dans mon vaste réseau, c'est quand même pas beaucoup. C'est quand même des gens... qui je suis hyper reconnaissante dans le fond de leur soutien là. C'était vraiment dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, dans la vérité. J'entraînais vraiment des conversations exceptionnelles. Donc il y avait mon ami, pas mon ami, mais ma famille et ce cercle d'amis là. Bien sûr, j'avais mes collègues aussi qui étaient dans le coup là, parce que je veux pas. Puis les gens à la ruche ont été exceptionnels aussi dans ce soutien là également. Vraiment, vraiment beaucoup. Oui.
Ben félicitations, c'est assez exceptionnel que tu sois passé à travers ça, que tu aies documenté le processus. Et encore une fois, on invite l'audience aujourd'hui à aller jeter un petit coup d'œil. Je pourrais dire aussi que ton attitude t'a pas nuit. Ton attitude t'a pas nuit parce qu'on discute avec toi aujourd'hui, puis je pense que les gens peuvent l'entendre. T'as une joie de vivre qui est virulente quasiment, hein? Donc j'imagine que d'avoir une joie de vivre comme ça, une confiance en la vie, un sourire même dans des périodes excessivement sombres, ça doit pas nuire dans des périodes comme ça.
Ben, je pense que c'est essentiel, tu sais, mais il faut pas non plus être dupe et se promener avec un sourire dans le visage juste pour dire qu'on a un sourire dans le visage, tu sais. Mais c'est sûr que moi, je suis axée solution. Dans ma vie, là, je suis axée solution. Tu sais, que ce soit, tu sais, professionnellement ou personnellement. Et quand j'ai eu ce diagnostic-là, c'était clair dans ma tête que c'était presque un chemin que je devais passer pour être presque encore plus une meilleure humaine, tu sais. Je sais que ça peut vraiment être niaiseux, puis c'est pour ça que j'ai appelé aussi le site Un cancer en cadeau. J'ai comme cette envie profonde d'offrir mon expérience en cadeau. Puis pour moi, ça a presque été quand même un certain cadeau. Je souhaite pas ça à personne, puis on s'entend que je veux pas que personne commence à penser que je pense qu'un cancer est un cadeau à recevoir, absolument pas. Mais si je suis capable philosophiquement d'aller le travailler comme ça, oui, je peux quand même dire pour moi, j'en tire du bon. J'ai eu des personnes exceptionnelles qui sont rentrées comme ça sur ma route, puis qui ont fait de cette expérience-là un cadeau. C'est vraiment, vraiment ça. Puis tu sais, souvent les gens utilisent le mot combat. Tu sais, hey, t'es courageuse. Hey, bravo pour ton combat. Ben moi, j'ai jamais, jamais considéré ça comme un combat. Tu sais, un combat, c'est quelque chose qui compte. Qu'on va à l'encontre, tu sais, qu'on est sur un mode défensif. Tandis que moi, mon approche a été quasiment d'embrasser cette situation-là, tu sais. Ce cancer-là, cette tumeur-là, elle est née en moi. J'ai toujours eu l'impression que j'allais être capable de la faire partir aussi, vu qu'elle est, née en moi. Et j'avais vraiment cette espèce de vision que c'était presque en lui donnant de l'amour et en embrassant cette situation-là, que je vais être en mesure de passer à travers. Donc, souvent, je souhaite à mes consoeurs de sein qui ont des diagnostics ou à des confrères de cancer, comme j'aime bien les appeler, je leur souhaite bonne résilience. Parce que c'est plus de la résilience qu'on a besoin que du courage. T'sais? Parce que le courage, à la base, oui, c'est le cadeau de la peur, mais ça reste que quelqu'un qui, en ma tête, qui est courageux, là, c'est quelqu'un qui décide de quitter sa job pour s'en aller faire le grand saut. C'est quelqu'un qui décide à la limite de sauter en bungee. C'est du courage, tu sais. C'est quelque chose qu'on décide. Mais quand on a une tumeur, on ne décide pas de l'avoir. Donc, par conséquent, je considère pas que je suis courageuse, mais je suis résiliente en maudit, par exemple.
Puis, malgré tout ça, ben, je pense que tu viens d'avoir une nouvelle qui est totalement fantastique. Est-ce que cette nouvelle-là, est-ce que les dernières semaines t'aident à peut-être planifier un petit peu plus l'avenir, voir ce que tu aimerais faire davantage en 2022, en 2023? Quoi ça ressemble, tes plans?
Mes plans sont fantastiques. Alors, ben c'est ça, comme on s'est dit, mes traitements sont terminés. C'est sûr que comme n'importe qui, on a toujours des craintes. T'sais, c'est un peu, on sort d'un événement traumatique, là, tu sais, puis tout ça. Mais 2022, je la vois comme une année quand même extraordinaire. Je travaille sur un livre, donc qui sera, ça c'est d'ailleurs en fait la première ici, primeur et exclusivité. Oui, primeur et exclusivité ici présent. Donc, et voilà. Donc, je travaille sur mon projet de livre qui prendra en fait un peu la même structure, là, donc s'inspirer, s'informer, s'outiller que mon précédent livre, mais vraiment basé sur mon expérience que je viens de vivre avec un cancer en cadeau. Donc, vraiment le même principe pour justement permettre aux hommes et aux femmes qui passent par une situation similaire, ben, d'avoir les outils pour un peu shortcutter, donc passer vraiment tout droit à l'essentiel pour aller vraiment regarder qu'est-ce qui est possible puis qu'est-ce qui est disponible pour contribuer à leur bien-être puis passer à travers cette aventure-là avec plus de douceur. Donc, c'est pas un ouvrage qui est nécessairement, c'est pas du tout à l'encontre de la médecine. Au contraire, moi, je suis la preuve que la combinaison des deux est exceptionnelle, là. Donc, c'est vraiment comment outiller les gens à embrasser un et l'autre. Donc, la médecine traditionnelle, la médecine complémentaire. Les gens aussi à poser des bonnes questions. Donc, pas arriver finalement dans le cabinet du médecin avec des réponses, mais plutôt arriver avec des questions puis être à l'écoute. Donc, vraiment, c'est cette approche-là que je vais mettre en lien. Sinon, ben à la ruche, mon Dieu, ça va tellement bien. On est en pleine croissance. Donc, plein de projets. Donc, autant en croissance au niveau des régions qu'on va ouvrir en 2022, autant au niveau de la croissance de l'équipe. Donc, une équipe qui est extraordinaire. Surveillez d'ailleurs les offres d'emploi parce que dans la section carrière, quand il va en avoir beaucoup, on travaille beaucoup de fonds aussi. On a des fonds qui sont exceptionnels à la ruche, comme le fonds 1001 pour la jeunesse, donc qui est un fonds qui vient doubler, dans un fonds d'appariement qui vient doubler le montant recueilli sur les campagnes qui s'adressent vraiment aux jeunes en bas de 29 ans. Il y a un nouveau fonds qui a été lancé en juillet, le fonds Moins c'est plus aussi avec Recyc Québec, donc qui est encore là, c'est un programme d'1 million qui est en vigueur sur la ruche. Donc, des programmes comme ça vont voir le jour au cours de 2022, puis ça, c'est super stimulant. Ben, puis pour Bébé Jet Lag, ce qu'on se souhaite, c'est que la pandémie finisse! C'est juste ça qu'on se souhaite. Fait que c'est vraiment, vraiment ça. Puis entre-temps, ben encore là, tu sais, quand la vie te donne des citrons, tu en fais de la limonade. Et voilà. Alors, ma limonade, pour moi, a été vraiment de récupérer ça et de profiter du tremplin pour avoir du plaisir ici comme ailleurs, en capitalisant, en attendant sur le « ici ». Donc, on a fait le tour du Québec vraiment en famille, découvert des super belles régions, marié aussi ma passion pour l'entrepreneuriat en allant à la rencontre des entrepreneurs d'ici, en les valorisant sur les plateformes de Bébé Jetlag. Donc, c'est vraiment ça, mon année 2022, remplie de santé et de temps aussi.
Mm-hmm. C'est ce qu'on va te souhaiter. C'est définitivement ce qu'on va te souhaiter. Puis, tu as parlé de livres que tu en as déjà écrit et que tu es en train d'en écrire un nouveau. Uh-huh. Qu'en est-il de tes lectures personnelles? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'aide à avoir peut-être une vision plus approfondie du monde des affaires sur les prochaines actions que tu vas poser avec la ruche?
Ben, écoute, là, pour l'instant, là, au niveau du monde des affaires, j'avoue que je me suis un peu écartée de ça au cours de la dernière année au niveau de mes lectures. Par contre, moi, je me dis qu'un gestionnaire en santé est un gestionnaire performant en santé mentale puis en santé physique. Donc, et c'est ce qui est vraiment super, c'est que dans justement mon cercle fermé de gens qui étaient dans le coup, qui m'ont vu aller au cours de ces 14 derniers mois, bien, il y en a plein que j'ai influencé même positivement dans mes nouvelles habitudes de vie, tu sais. Donc, mes nouvelles habitudes de vie, c'est sûr que j'ai changé mon alimentation au grand complet. Moi, je suis une gourmande, là. Genre que la journée de mon diagnostic, j'étais à l'émission Savourer à Radio-Canada à préparer de la cuisine portugaise, là. Ça donne une idée à quel point je suis une fan finie de bouffe, là. Moi, je voyage par les saveurs, j'adore, je suis une gourmande, là. Je suis une passionnée de toutes sortes de choses. Et là, de me dire, oh mon Dieu, tu dois faire de la restriction alimentaire, tu sais, tant au niveau du jeûne, parce que j'ai vraiment incorporé le jeûne j'ai fait un jeûne chimio, là, qui est une qui est très innovant, en fait, qui est vraiment en Allemagne, c'est courant et tout ça, mais au Québec, on n'est pas rendu là encore nécessairement, mais j'ai osé, puis j'ai fait les choses différemment, puis clairement que ça a fonctionné. Donc, j'essaie vraiment de prendre des lectures qui vont nourrir finalement tous ces petits aspects-là, puis embarquer les gens là-dedans. Puis si je peux peut-être nommer deux livres que je lis présentement, là, je lis la suite de Rémission radicale, qui est un livre de Kelly A. Turner, qui est une chercheuse qui est spécialisée en oncologie. Puis elle, là, ce qui est vraiment extraordinaire de cette femme-là, c'est vraiment une scientifique, là, puis elle a analysé 1000 cas de rémission radicale dans des publications médicales. Fait qu'elle a vraiment une méthodologie qui est super rigoureuse. Puis, elle a répertorié 75 facteurs physiques, émotifs, spirituels, qui ont vraiment joué un rôle dans des cas de guérison. T'sais. Et là-dessus, elle a vraiment déterminé 9 piliers qui sont vraiment communs, des troncs communs à tous ces gens-là. T'sais. C'est vraiment, vraiment super intéressant, ce livre-là. Donc, Rémission radicale. Et là, ce que je lis présentement, c'est la suite qui s'appelle Espoir radical. Et ce que je trouve intéressant, elle a rajouté un 10e pilier, qui est le sport, dans le fond. Fait qu'entre-temps, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Fait qu'elle a rajouté ce 10e pilier-là. Et c'est vraiment intéressant pour plein d'autres cas qui elle sort vraiment du créneau du cancer, là. Tu sais, c'est vraiment des maladies auto-immunes, diabète et tout ça. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis, je lis aussi un autre livre en parallèle. Qui s'appelle Le Jeûne, une nouvelle thérapie là, de Thierry de Lestrade, qui est vraiment aussi super intéressant. Puis ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est vraiment, on va vraiment décortiquer l'histoire, dans le fond, de la création de la médecine, en fait, dans sa forme actuelle de 1880 jusqu'à maintenant. Puis vraiment, on va tout décortiquer ça. Fait que je trouve ça le fun aussi, tu sais, de sortir du cadre de la business. Bien moi, oui. Ça me fait vraiment un grand bien.
Est-ce que tu t'instruis un peu avec des podcasts aussi?
Ah oui. Moi, je me... vraiment. Ça, c'est ma nouveauté, là. Je passe l'aspirateur là, avec une passion vraiment que je connaissais pas du tout avant, là. Mais non, vraiment. Mais moi, j'ai deux coups de cœur. Un que vraiment, c'est sérieusement, c'est un coup de cœur. Mon cœur explose quand j'écoute ces podcasts. C'est Joanie Lacroix de Pastel Fluo qui a lancé récemment sa série de podcasts qui s'appelle Renaître à soi. C'est des gens qui changent le monde à leur façon. Donc, c'est des Québécois c'est des entretiens qui ont vraiment des fois, c'est long, là. Je pense qu'il y en a un qui dure 2 heures. Oui, c'est long, là. Mais c'est dans l'authenticité, c'est dans la vérité, c'est dans cette. Joanie, elle a un talent exceptionnel de créer un lien aussi avec ses invités. Puis, en tout cas, j'adore ça et ça me fait réfléchir. Je trouve ça vraiment le fun. Puis un autre podcast aussi que j'aime beaucoup, puis ça, des fois, ils sont plus courts, puis j'aime ça jouer là-dedans, c'est Femmes de fer avec Sophie Momigny, qui est intéressant. Ce que j'aime aussi, c'est qu'elle dresse des portraits de femmes entrepreneurs, mais aussi, tu sais, des fois, il va par sujet, donc plus court. Je trouve ça le fun.
C'est des bons choix qu'on va pouvoir partager avec notre audience aujourd'hui. Et je terminerai, Sophie, dernière petite question. À quoi ressemble la routine que tu peux avoir le matin pendant le travail et également après le travail?
J'en ai aucune routine. Aucune routine. Ah ben c'est sûr, j'ai la routine des enfants, là. J'ai la routine des enfants qui dicte. Ma fille a 9 ans, mon fils a 6 ans, fait que j'ai pas beaucoup de latitude nécessairement. Mais tu sais, la routine, pour moi, ce mot-là, il est mortel. C'est comme un mot qui est dur. Tu sais, pour moi, le mot routine me fait un peu halluciner. J'aime beaucoup ne pas avoir de routine. Tu sais, c'est niaiseux, mais je sais qu'il va falloir que je... En fait, c'est ça mon défi 2022. Je le dis haut et fort. Je l'envoie dans l'univers. Aujourd'hui, c'est la journée des premières.
Exactement.
J'aime ça. Je le dis au fort, je le verbalise. Mon défi en 2022 sera de m'inculquer une certaine routine. Je mets le mot certaine, ça me fait moins peur. Donc, une certaine routine qui va inclure justement du sport de façon beaucoup plus... pas contrôle, mais je veux dire plus
méthodique,
plus planifié.
Ouais,
ouais, exactement. Mm-hmm. Puis c'est contradictoire, hein, tu sais, parce que tantôt, je te disais autant que j'aimais planifier, tu sais, mais autant que ma routine personnelle, elle s'adapte puis elle bouge autour de ça.
Mais Sophie, je te dirais que c'est pas tellement surprenant parce que c'est une question que je pose à tous les gens qui viennent sur le podcast et j'étais parti dans l'assumption au départ que tout le monde allait arriver avec des routines militaires et j'ai fait le calcul et finalement, il y a 50% des gens qui me parlent de cette fameuse routine de se lever très tôt, l'entraînement, la bonne nutrition, tout ça. Et l'autre 50% qui dit « Antoine, j'ai aucune routine. » Ça change à tous les jours.
Je suis pas si pire quand même. Là. Je suis pas
mais
si
non,
pire.
Tu fais tu fais partie de 50% des gens qui nous disent ça.
Mais il y a une chose que je fais tout le temps. Je me fais un jus vert. Et ça, là, ça a changé ma vie. Alors, je recommande à tout le monde de se renseigner là-dessus. Je me fais un jus vert à chaque matin que je prends à 11 heures. Ça, c'est ma seule routine que je prends. Ouais. Ça, c'est sûr.
Tu parlais de prendre soin de la nutrition. Donc, j'imagine que c'est ça. Il y a certaines habitudes comme ça que tu dois prendre. Puis, Sophie, il y a beaucoup de choses que tu as faites. Il y a beaucoup d'endroits qu'on est capable de te retrouver. Si tu avais à énumérer où est-ce que les gens peuvent te suivre selon différents sujets, je te laisse la parole et parle-nous un peu peut-être de ces blogs-là. Également, tu nous parlais d'offres d'emploi qui étaient peut-être ouvertes chez vous.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, super simple, si jamais vous voulez me suivre dans mes aventures, donc pour tous vos rêves de voyage, il y a une belle façon de le faire, c'est sur Instagram, donc sur Baby Jetlag. Donc, vous allez trouver ça de façon très facile sur Instagram. C'est sûr qu'il y a babyjetlag.com, puis le livre « Le guide des parents voyageurs » qui est vraiment la Bible pour voyager en famille. Si jamais vous ou un de vos proches a malheureusement un diagnostic de cancer, ben suivez-moi sur Instagram, donc toujours un cancer en cadeau. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la technique du casque réfrigérant, encore là, j'ai rassemblé pour faciliter la vie des gens, ou mes futures sœurs de sang ou frères de cancer, le plus d'informations sur tout ce qu'il faut savoir sur la technique du casque réfrigérant, c'est sur un cancer en cadeau. On a aussi, mon histoire est sur un cancer en cadeau. Et pour la ruche, allez visiter laruchequebec.com. Nous suivre aussi sur les plateformes sociales laruchequebec.com. Et vous pouvez toujours aussi sur LinkedIn me retrouver, là, Sophie Reiss. Je suis toujours là, sympathique et prête à vous répondre.
Fantastique. Sophie, ça a été inspirant la rencontre d'aujourd'hui. Autant que tu es une femme d'affaires qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition. Tu as également l'air d'être une personne qui, au niveau personnel, est très équilibrée et met également beaucoup d'énergie et de passion dans ses projets de voyage. Et même quand tu le dis, je pense que tu l'as très, très bien résumé aujourd'hui. Quand la vie te donne des citrons, t'en fais de la limonade. Ouais. Tu es un exemple parfait de tout ça. Je te remercie profondément. Je pense que ça va avoir été un entretien fascinant, inspirant pour notre audience aujourd'hui. Donc, je te remercie tout ça et je suis très heureux d'apprendre que on a enregistré le podcast quelques jours seulement après la bonne nouvelle que tu as eue. Le monde est bien fait, donc très, très heureux d'apprendre ça. Sophie, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissance.